la femme catholique dans ses relations intimes avec Dieu. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Église compte spécialement sur vous. L'Église compte sur vos vertus, l'Église compte sur votre dévouement, et quand il le faudra, peut-être un jour, sur votre héroïsme. Elle compte sur vous, quel que soit le lieu où vous vivez et quel que soit votre état de vie. Elle compte sur vous dans la famille, elle compte sur vous dans le monde, elle compte sur vous dans les œuvres charitables. Mais pour que vous puissiez ne pas décevoir l'Église, pour que vous puissiez répondre à son attente, vous avez besoin de puiser des forces en Dieu. Vous avez besoin de rapports intimes avec Dieu. Pourquoi, me direz-vous, ai-je besoin d'avoir des rapports intimes avec Dieu? Eh bien, tout d'abord, le premier motif pour lequel vous avez besoin de cette intimité, c'est parce que vous avez une âme. Or, au ciel, mais même déjà sur la terre, il n'y a que Dieu pour les âmes. Sans Dieu, nos âmes sont orphelines. Dieu, on l'appelle notre Père. Sans Père, nous sommes orphelins. Dans l'Ancien Testament, un prophète faisait cette prière. « Ô mon Dieu, comprenez donc mon cri. » Eh bien, on peut dire qu'il y a dans vos entrailles un cri auquel nulle créature n'a jamais répondu. Et en effet, à ce cri, Dieu seul peut répondre. Et on le voit bien, dès lors que des âmes vivent loin de Dieu, dès lors qu'elles cherchent ailleurs qu'en Dieu leur bonheur, elles ne le trouvent pas. Elles ne le trouvent pas tout simplement parce que ce bonheur ne se trouve pas en dehors de Dieu. Vous connaissez Saint Augustin qui est un converti. Il a eu cette phrase qui est bien connue, « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre âme est inquiète tant qu'elle ne repose pas en vous. » Notre âme est inquiète tant qu'elle ne repose pas en vous. Alors c'est vrai que le bon Dieu ne se donne pas sur la terre de la même manière qu'au ciel. Il ne se donne pas, disons, si profondément sur la terre qu'au ciel. Ou s'il se donne déjà profondément, nous ne pouvons pas goûter aussi profondément qu'au ciel cette présence de Dieu en nous. Celui qui fera notre bonheur au ciel est déjà présent en nous, mais il n'est accessible qu'à la foi. Et la foi étant un clair-obscur, on ne peut pas percevoir parfaitement ce trésor. Mais ce trésor, il est bien en nous. Et donc, d'une manière voilée, on peut dire que notre âme reconnaît déjà, à certains moments au moins, cette union avec Dieu. Certainement que chacune d'entre vous, vous avez pu faire l'expérience un jour ou l'autre. Peut-être certaines, c'est quand vous étiez plus petite, lors de votre première communion. Pour d'autres, c'est lors d'une nuit d'adoration. Pour d'autres, c'est à l'occasion d'une grande fête. Pour d'autres, à l'occasion d'une retraite. Un jour ou l'autre, vous avez pu ressentir plus profondément dans votre âme cette présence de Dieu. Et en ressentant en vous sentant ainsi, je dirais, rempli de Dieu, vous avez perçu un petit peu ce qu'est le ciel. Et vous avez par là pu mieux saisir, disons, combien cet avant-goût du ciel vous a montré le décalage qu'il y a entre ce type de bonheur et le bonheur que peuvent nous réserver les créatures ici-bas. Donc toute créature, même agréable, même très agréable, ne peuvent pas nous remplir notre âme de la même manière que le bon Dieu. Et le roi David, qui était un contemplatif, eh bien, il avait déjà saisi ce que je veux vous dire là. Il disait « Je serai rassasié quand apparaîtra sa gloire. » « Je serai rassasié quand apparaîtra sa gloire. » Donc c'est vrai que sur la Terre, on ne peut pas, encore une fois, goûter pleinement, parfaitement et continuellement le bonheur du ciel. Mais en général, les âmes qui sont généreuses, ne serait-ce que certains flashs, donc c'est parfois des courts instants dans notre vie, mais à certains moments, si nous sommes généreux, ou parfois d'ailleurs même sans être généreux, le bon Dieu, qui lui est infiniment généreux, nous fait sentir un petit peu ce qu'est cette intimité avec lui. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille faire en sorte que ces flashs passagers, si vous voulez, durent tout le temps sur la terre. Ce serait une erreur parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le bon Dieu sur la terre veut que nous méritions le ciel. Mais malgré tout, ces flashs nous sont comme des repères et nous montrent dans quelle direction avancer si nous voulons avoir une vie déjà féconde sur la terre et ensuite heureuse au ciel. Donc c'est vrai aussi qu'il existe une certaine paix que connaissent des gens qui ne vivent que pour la terre. Vous avez autour de vous des femmes que vous rencontrez qui ne paraissent pas si malheureuses que cela et qui vivent loin de Dieu. Mais il faut savoir que cette paix que peuvent connaître donc ces personnes ne sont, on pourrait dire, qu'une ombre de paix par rapport à la paix que l'on peut éprouver quand on est uni à Dieu. Et celles d'entre vous qui avaient malheureusement vécu peut-être plus loin de Dieu dans le passé, vous vous êtes rendu compte, entre avant votre conversion et après votre conversion, que cette notion de paix ne signifie pas exactement la même chose. Vous aviez peut-être une certaine paix lorsque vous viviez même dans le péché, hélas, et depuis que vous êtes converti, à certains moments au moins, vous éprouvez une autre paix qui est bien plus profonde, qui est, bien plus profonde. Et alors, donc je vous dis que vous avez besoin de rapports intimes avec Dieu parce que vous avez une âme. Et je dois même dire, et ceci à votre gloire, que l'âme est en quelque sorte plus vivante, plus indomptable en vous qu'en l'homme, en raison de la relation qui vous unit à Dieu. Ça veut dire, si vous voulez, que lorsque Dieu lui manque, la femme, qui n'est pas dénaturée, éprouve encore davantage que l'homme un sentiment de manque. Le pape Pie XII, vous voyez, disait aux organisations catholiques féminines dans une allocution, c'était le 29 septembre 1957. Donc voici ce qu'il disait. La vérité la plus méconnue des hommes d'aujourd'hui est cependant la plus fondamentale pour vous. La vérité la plus méconnue et en même temps la plus fondamentale pour vous. Quelle est-elle? Il s'adresse à des femmes. C'est la relation de la femme à Dieu. Il ajoutait, la femme vient de Dieu, elle lui doit son existence, les caractéristiques de son être, de sa tâche terrestre, et la destinée éternelle qui couronnera l'accomplissement fidèle de sa mission. Il ajoutait, vous connaissez l'enseignement catholique sur l'origine de l'homme et de la femme. Dieu les créa tous les deux à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire des êtres intelligents et libres, capable de le connaître, de l'aimer, capable aussi de se perpétuer, de dominer la création et de l'utiliser pour leur bien propre et leur service. Aussi, le sens de la vie humaine peut-il se résumer d'un seul mot, chercher Dieu. Donc Dieu nous a créés pour lui. Avant le péché, l'homme était intimement uni à Dieu par la grâce. Cette grâce, nous l'avons perdue, nos premiers parents l'ont perdue, nous l'avons retrouvée au baptême. Nous l'avons peut-être malheureusement perdu par la suite et retrouvé depuis. Et dans la mesure où précisément, donc dans le plan de Dieu, nous ne pouvons nous épanouir que par la grâce, eh bien tant qu'on n'a pas la grâce, on ne peut pas être intimement heureux. Et quand on a la grâce, on doit continuer à chercher Dieu. Un synonyme, enfin un petit peu de la vie terrestre. La vie terrestre c'est quoi? C'est une recherche de Dieu, une recherche constante de Dieu. Mais comme disait très justement saint Augustin, ou c'est plutôt notre Seigneur à saint Augustin, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Donc ça, c'est un petit peu un paradoxe. Donc les modernistes sont en recherche. Ils sont en recherche, mais eux, ils ne trouvent jamais, parce qu'ils sont en recherche perpétuelle, une recherche constante. C'est la recherche pour la recherche, comme c'est le dialogue pour le dialogue. Tandis que nous, on sait qui est Dieu. On sait que notre Seigneur Jésus-Christ est au tabernacle. On sait que la Sainte Trinité est présente au plus profond de notre âme. Mais malgré tout, on continue à chercher ce bon Dieu qu'on connaît déjà. Et donc, parce qu'on connaît de lui, eh bien, on désire le connaître davantage. Et c'est ça qui nous fait souffrir, c'est qu'on n'arrive pas à le connaître autant qu'on aimerait le connaître, parce qu'on est encore sur la terre et qu'on n'est pas encore au ciel. Mais toute notre vie doit consister à chercher Dieu. Et tant qu'on cherche, on est sur la bonne direction. Celui qui cherche, vous voyez, c'est quelqu'un qui est actif. Quand on cherche un objet, on est actif, on n'est pas passif. Et donc cette recherche est bon signe, même si on a l'impression qu'il est loin. Et c'est ça le problème, c'est que souvent, parce qu'on a l'impression que le bon Dieu est loin, on a tendance à se décourager en disant « c'est pas la peine, n'importe comment, moi je suis pas fait pour ça ». Et donc on arrête. Et quand on arrête, alors on n'est plus dans le droit chemin. On doit avancer toute notre vie dans cette recherche. Donc c'est ce que dit le pape Pie XII. Le sens de la vie humaine peut se résumer d'un seul mot, chercher Dieu. Chercher celui qui incessamment appelle à lui sa créature pour la combler toujours davantage de la plénitude de sa vie et de son amour. Et alors après avoir vu donc l'objet de la vie humaine et la mission de la femme humaine qui est de chercher Dieu, le pape va regarder comment l'homme moderne vit aujourd'hui. Quelle attitude adopte le monde moderne à l'égard de cette vérité fondamentale de l'origine divine de l'homme et de la femme? Vous le savez, l'idée de Dieu apparaît comme superflue dans un monde tombé aux mains de l'homme. Un monde qui est tombé aux mains de l'homme. Le monde a été créé par Dieu, mais il est tombé aux mains de l'homme. Aujourd'hui, l'homme cherche uniquement à transformer ce monde au lieu de chercher à connaître Dieu. C'est plus facile pour nous de transformer le monde que de chercher à connaître Dieu. Mais nous sommes faits d'abord pour connaître Dieu. Et avant de transformer le monde, nous sommes appelés à regarder ce monde et à voir comment ce monde est déjà une image de Dieu, comme nous l'avons vu hier dans l'instruction sur Dieu. Donc l'idée de Dieu apparaît comme superflue dans un monde tombé aux mains de l'homme, au pouvoir de la science et de la technique, et d'où l'on a éliminé les croyances encombrantes et les superstitions. Cette atmosphère d'athéisme menace plus gravement la femme que l'homme, tant dans sa vie personnelle que dans son rôle social. Donc l'atmosphère d'athéisme dans laquelle nous vivons menace davantage la femme que l'homme. Et pourquoi elle menace davantage la femme que l'homme? Eh bien tout simplement parce que la femme, en raison de sa mission, comme nous allons le voir, elle est plus disposée normalement à goûter les choses de Dieu. Et donc lorsqu'elle s'éloigne de Dieu, elle est dans un état de manque qui est plus profond que celui que peuvent éprouver les hommes, bien que les hommes soient aussi faits pour Dieu, bien sûr. Et c'est pourquoi il me semble que parfois, derrière les plaintes de certaines femmes, derrière les reproches dont certaines femmes accablent leur entourage, on peut voir le signe d'une âme inassouvie, le signe d'une âme qui réclame des créatures ce que Dieu seul peut donner. Qu'à 18 ou 20 ans, vous voyez, une jeune fille pense que si elle trouve le prince charmant, elle trouvera pleinement le bonheur ici-bas, on le comprend, mais qu'à 40 ans ou 60 ans ou 80 ans, on le pense, c'est une erreur, vous voyez. Non pas, certes, que les hommes sont tous des démons, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que tout simplement, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme qui fait que la femme sent une attirance vers l'homme. Et qui est réciproque. L'homme a aussi une attirance vers la femme. Mais malgré tout, le conjoint ne pourra jamais combler pleinement votre cœur humain. Parce que l'homme n'est pas fait avant tout pour la femme n'est pas avant tout faite pour l'homme, l'homme et la femme sont avant tout faits pour Dieu. Et donc, si on le comprend bien, ça peut aider d'ailleurs dans certaines familles où il y a des tensions dans le ménage, eh bien, à mieux gérer ces situations. Donc ne réclamons pas au conjoint ce que Dieu seul peut vous donner. Dieu seul peut combler pleinement votre cœur humain. Et malgré tout, votre conjoint peut en partie combler un manque qui est présent en vous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Sainte Écriture, et par là, elle montre cette complémentarité qui existe. Et donc l'erreur, c'est bien sûr le divorce. Ce sont les femmes qui se séparent de leur mari en pensant qu'elles se sont trompées de mari. Mais ensuite, en essayant une deuxième expérience, malheureusement, elles retrouvent bien le même malheur. Et parfois un malheur encore plus grand. Et au contraire, la femme chrétienne, alors qui vit dans l'intimité de Dieu, donc deuxième cas de figure, non pas celle qui cherche dans la créature ce que Dieu seul peut donner, mais celle qui a compris que c'est Dieu qui peut pleinement remplir le cœur humain, eh bien cette femme-là, elle trouve en elle un fond de bonheur qui va la dédommager de tout ce que les créatures lui refusent ou ne peuvent lui donner. Soit en raison des limites de ces créatures, ou soit en raison même des péchés aussi, des défauts de ces créatures. Et c'est pourquoi on rencontre certaines femmes qui donnent beaucoup et qui attendent peu en retour. Et si elles sont capables d'être heureuses malgré cela, eh bien c'est parce que leur âme vit de Dieu. Donc Dieu comble en quelque sorte le manque qui est présent en elles par le fait que les créatures ne donnent pas toujours ce que même on serait en droit et ce que vous seriez en droit d'attendre d'elles. Donc vous avez besoin de Dieu parce que vous avez une âme. Ensuite, vous avez besoin de Dieu parce que vous avez une conscience. Et cette conscience vous fait voir d'un côté votre faiblesse et de l'autre votre devoir. Notre conscience, en effet, nous fait voir notre faiblesse. On voit bien que notre imagination souvent nous joue des tours, notre raison est facilement obscurcie, notre cœur s'emballe parfois un peu trop vite. On a du mal à accepter la souffrance, on se laisse prendre au piège du découragement, que sais-je. Donc, nous sommes faibles. Et malheureusement, beaucoup se croient forts parce qu'ils confondent l'élan avec la force. Et là encore, ça peut être un défaut de jeunesse, c'est en même temps aussi une qualité, mais la jeunesse, elle est positive au départ, heureusement. Si on s'engage dans la vie de façon négative, ce ne serait pas très drôle. Donc au départ, on est positif, donc on a cet élan. Mais l'élan, après, il y a l'endurance par derrière, vous voyez, et ce sont deux choses différentes. Donc quand on a 15 ou 20 ans, on s'imagine facilement qu'il suffit d'étendre la main pour saisir la vertu et armer son cœur. Donc on a tendance à regarder vers les sommets les plus sublimes, à se laisser attirer par ces sommets, et on pense atteindre ces sommets d'un coup d'aile. Mais par la suite, souvent, devant les difficultés de la vie, devant certains échecs, l'illusion s'évanouit. Et peut-être alors que là, on tombe, hélas, dans un défaut inverse, dans l'excès inverse. On croit la vertu impraticable. Et ça, c'est un autre défaut contre lequel il faut lutter. Et donc, un retour sur nous-mêmes, en tout cas, nous fait voir notre faiblesse. Mais nous fait voir aussi notre devoir. On a conscience de nos devoirs. Et c'est précisément la perception de notre faiblesse et en même temps celle de nos devoirs qui nous fait voir le décalage entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être, ou même ce que l'on est et ce que l'on devrait être. Et c'est ce qui fait que, qu'on a parfois un petit peu un sentiment d'insatisfaction, de déception et parfois de trouble. Et donc la question qui nous vient spontanément, qui est-ce qui va combler ce vide? Qui est-ce qui va combler cet abîme douloureux entre mes faiblesses et mon devoir? Qui est-ce qui va mettre la force? Qui est-ce qui va mettre l'infatigable dévouement et, quand il le faudra, l'héroïsme dans mon cœur? Eh bien, la réponse est évidente. Dieu seul peut combler cet abîme. Et Dieu seul veut combler cet abîme. Dieu le veut. Dieu veut que nous vivions à la hauteur d'un bel idéal. Donc si on ne croit plus dans cet idéal catholique d'une vie féconde, c'est parce qu'on a peut-être au départ eu trop confiance en nous et pas assez confiance en lui. Donc avec le temps, on doit apprendre à faire plus confiance en Dieu, tout en coopérant à l'action de Dieu par nos efforts. Donc vous avez besoin de Dieu parce que vous avez une âme, vous avez besoin de Dieu parce que vous avez une conscience, vous avez besoin de Dieu parce que votre âme est une source. Et ça, c'est très important de le comprendre. On peut dire que si l'homme a voulu s'attaquer à la femme, c'est parce que l'homme a compris que justement votre âme est une source. Et pour tarir cette source, il s'est attaqué à vous. Si je suis très content de faire l'apostolat que je fais à l'école de filles de Pouilly, si je suis content de vous prêcher régulièrement des retraites, c'est parce que je sais que de votre degré d'union à Dieu dépend en grande partie la valeur morale de tout votre foyer ou des foyers que les enfants fonderont plus tard, ou également même de votre entourage ou de vos proches si vous n'êtes pas marié. Donc vous avez un rôle irremplaçable dans le domaine religieux. Auprès de votre mari, de vos enfants si vous êtes marié, auprès de vos proches si vous ne l'êtes pas. Le pape Pie XII disait, le pape Pie XII était un fin psychologue, il connaissait très bien la nature humaine, aussi bien celle de l'homme que celle de la femme. Et le pape Pie XII disait, toujours dans cette même allocution du 29 septembre 1957, « Par ses dispositions innées et la fonction à laquelle sa nature la destine, la femme est davantage en harmonie avec les récoltes spirituelles. La femme est davantage que l'homme en harmonie avec les récoltes spirituelles. Elle les perçoit plus aisément, elle les rend sensibles aux autres, en particulier à ceux dont elle a la charge. » Pour moi, le secret, si vous voulez, se résume en une phrase, j'anticipe peut-être, c'est peut-être dans la conférence sur la femme épouse et mère que je devrais en parler, c'est que tout votre être est ordonné à la maternité. Et le bon Dieu, sachant que ce sont les femmes qui sont normalement, par nature, appelées à éduquer leurs enfants, spécialement dans les premières années, eh bien, le bon Dieu vous a donné toutes les qualités nécessaires pour que vos enfants puissent être demain de bons catholiques. Et pour cela, le bon Dieu a mis dans votre cœur une capacité particulière de saisir les choses spirituelles pour les transmettre tout simplement à vos enfants dès le plus jeune âge. Et si vous avez compris cela, eh bien vous comprendrez mieux peut-être pourquoi le pape Pie XII insiste sur cette supériorité, on pourrait dire, de certaine manière, de la femme sur l'homme dans la perception des choses spirituelles. C'est tout simplement en relation avec votre mission. Le bon Dieu, quand il donne à quelqu'un un don, c'est en rapport avec une mission. Puisque dans le plan de Dieu, au départ, c'est prévu comme cela, c'est pas aux hommes d'éduquer les enfants, mais aux femmes, même s'il y a une complémentarité homme-femme, on pourra aussi en reparler, les petits-enfants, au départ, eh bien, sont éduqués par les mamans. C'est dans l'ordre des choses. Eh bien, pour que les mamans éduquent bien les enfants, non seulement au niveau naturel, mais surnaturel, le bon Dieu leur a donné des dons particuliers. Des dons qui sont peut-être, hélas, parfois laissés en friche, mais des dons qui sont présents. Donc à vous de développer ces dons pour répondre à la mission que le bon Dieu attend de vous. Donc de cette première partie de cette conférence, retenez que nos ennemis rêvaient depuis longtemps d'arracher Dieu au cœur des mères, afin que les enfants n'aient plus de Dieu. Ça, c'est le plan diabolique. Le diable sait très bien la place de la femme dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi le démon a voulu lancer la femme sur le marché du travail et faire en sorte que la femme soit perçue comme étant comme un homme comme les autres. Et donc, par une espèce de faux égalitarisme entre la femme et l'homme, on a voulu, mettre la femme au niveau de l'homme, donc rabaisser la femme, je veux dire, au niveau de l'homme, d'une certaine manière. Et le résultat, eh bien, c'est que les femmes ne sont plus pleinement à leur place. Et les hommes non plus ne sont plus également à leur place. Et donc, il va falloir restituer tout cela. Mais grâce à Dieu, vous êtes là, et donc, rien n'est perdu. Donc, votre mission est capitale. Et pour la mener à terme, n'oubliez pas que vous ne donnerez à vos enfants que de votre plénitude. Vous ne leur donnerez Jésus-Christ que dans la mesure où vous le posséderez. Et si vous êtes tiède, eh bien, il risque fort de l'être aussi, ça c'est certain, et même davantage. Parce qu'il y a souvent un décalage entre les générations, c'est comme cela. Alors, du coup, maintenant que vous avez compris pourquoi vous avez besoin de Dieu, voyons alors quelle doit être votre piété. Quelle doit être la piété de la femme catholique? Quand on pense à la piété, on a tendance à penser spontanément à la récitation de certaines prières. En réalité, le fait d'avoir certaines habitudes de prière, le fait de faire des prières régulières, c'est très bien. Ce sont là des conditions de la piété. Et souvent, d'ailleurs, ce sont aussi des manifestations de la piété. Mais ces habitudes de prière ne constitue pas la piété. À telle enseigne que vous pouvez avoir des personnes qui peuvent très bien rabâcher des chapelets dans leur journée, en étant totalement ailleurs, totalement absente, si bien que ces prières ne les rendent pas meilleures. Donc la piété, ce n'est pas avant tout l'habitude de la prière, bien que l'habitude de la prière soit un élément bien utile pour alimenter la piété. Alors vous allez me dire peut-être que la piété, c'est donc le fait d'appartenir à un tiers ordre, c'est le fait d'introniser le Sacré-Cœur chez soi, c'est le fait de porter la médaille miraculeuse ou le scapulaire. Eh bien, en réalité, là encore, tous ces éléments peuvent alimenter votre piété, mais elles ne sont pas la piété. On peut très bien faire partie d'un tiers ordre, on peut très bien porter une médaille et rester une âme superficielle. Alors vous allez me dire, mais moi en fait, mes prières, mes dévotions sont pour moi la source d'une grande joie. Quand je prie, eh bien, je sens que le bon Dieu est là près de moi. Les prières que je fais me rendent sensible au voisinage de Dieu. Alors peut-être que c'est cela la piété. Eh bien non. C'est vrai là encore que les émotions peuvent être l'effet de votre piété, le fait d'une âme qui est très pieuse, eh bien, elle éprouve certaines émotions dans sa sensibilité. Mais les émotions ne sont pas la piété. La piété peut exister avec elle, avec ses émotions, mais la piété peut même aussi exister sans elle. Une âme pieuse, une âme même très pieuse, même une âme fervente ou très fervente, peut très bien, à certains moments, être dans la plus grande, dans la plus profonde sécheresse spirituelle. Elle peut très bien avoir l'impression que le bon Dieu est très loin d'elle. Et pourtant, cette femme peut très bien, tout en ayant l'impression que le bon Dieu est très loin d'elle, elle est malgré tout profondément unie à lui. Alors qu'est-ce donc que la piété ? Alors je vais vous donner la définition. La piété, c'est une disposition intime de l'âme. La piété, c'est une disposition intime de l'âme. Une orientation profonde de l'âme qui unit à Dieu toutes nos facultés et nous fait agir sous son influence. La piété, c'est une disposition intime de l'âme, une orientation profonde de l'âme qui unit à Dieu toutes nos facultés et nous fait agir sous son influence. Donc vous voyez, la vraie piété a pour origine le fond de l'âme. Le fond de l'âme où siège notre volonté et non pas la surface de l'âme où se manifeste notre sensibilité. Saint François de Sales dit la même chose en parlant de la partie supérieure de l'âme qui se manifeste par l'intelligence et la volonté et la partie inférieure de l'âme où siège la sensibilité et nos passions. Mais c'est la même chose. Donc la piété ayant pour siège la partie supérieure de l'âme, il arrive qu'elle va se prolonger dans la partie inférieure. Et donc, à ce moment-là, on va ressentir une grande ferveur sensible. On va ressentir un goût sensible pour les choses de Dieu. Mais il peut arriver, puisque la piété a pour siège la partie supérieure de l'âme, il peut arriver, et il arrive d'ailleurs fréquemment, et pour toutes les âmes d'ailleurs, il arrive que la partie supérieure de l'âme étant unie à Dieu, la partie inférieure lui fasse la guerre. Et c'est ce qui explique, par exemple, le fait que certaines âmes donc sont parfois même choquées par les images, les mauvaises images qui leur traversent l'esprit, qui leur traversent l'imagination, même dans la prière. Alors, tant qu'on chasse ces mauvaises pensées qui vous traversent l'esprit dans vos prières, qui sont comme des mouches, vous voyez, importunes ou des moustiques, et que vous cherchez à les chasser, en ce moment-là, pensez que vous êtes dans le droit chemin. Toutes ces mauvaises images ne sont pas un réel obstacle à votre piété, même si ensuite, il peut arriver qu'il y a eu une cause antécédente, bien sûr, à ces images, et là, votre responsabilité peut être engagée. Mais le démon qui n'aime pas nous voir prier, sa spécialité, c'est le cinéma, et il a une grande prise sur notre imagination. Donc il peut très bien, lui, nous présenter certaines images au moment de la prière. Et donc, tant qu'on refuse ces images, loin que nous péchions, c'est au contraire, nous faisons au contraire acte de vertu, acte de patience. Écoutons saint François de Sales. Je désire grandement que l'on distingue toujours les effets de la partie supérieure de notre âme d'avec les effets de la partie inférieure, et que nous ne nous étonnions jamais des productions de l'inférieur, pour mauvaises qu'elles puissent être, pourvu que nous nous tenions fermes en la partie supérieure pour aller toujours avant en la voie de la perfection. Et donc sainte Jeanne de Chantal, qui a vécu ici dans la région, qui était aux prises avec ce genre de tentation, saint François de Sales lui écrivait « Courage, pendant que nous pouvons dire avec résolution, quoique sans sentiment, vive Jésus, il ne faut point craindre. Et ne me dites pas qu'il vous semble que vous le dites avec lâcheté, sans force ni courage, mais comme par une violence que vous vous faites. Ô Dieu, mais donc voilà la sainte violence qui ravit les cieux. C'est cette volonté libre, laquelle, toute nue devant Dieu, réside dans la suprême et plus spirituelle partie de l'âme, ne dépend d'autre que de son Dieu et de soi-même. Tant que la partie supérieure de l'âme reste unie à Dieu, tant que vous voulez aimer, vous êtes dans le droit chemin. Est-ce que vous voulez aimer le bon Dieu, oui ou non? Vouloir aimer, c'est aimer. Donc il arrive parfois que l'ennui, que la sécheresse, et même parfois jusqu'au dégoût des choses spirituelles, envahissent une âme, au point de lui faire croire que c'en est fini de sa vie spirituelle. Mais tant que votre volonté, quoique sans sentiment, reste ferme dans son adhésion à Dieu, rien n'est perdu. Le péché est dans la volonté, la vertu est dans la volonté. Tant que vous avez une volonté droite, vous êtes dans le droit chemin. Et inversement, alors maintenant, ne vous fiez pas outre mesure aux attraits sensibles, aux douceurs et consolations spirituelles. Elles ne prouvent rien quant à votre fidélité. Quand vous avez une douceur spirituelle, c'est le bon Dieu qui vous aime et qui, vous aimant, certes, vous donne un peu de sucre. Mais quand il enlève le sucre, c'est aussi parce qu'il vous aime et qu'il veut vous faire avancer plus haut, et donc c'est pour ça qu'il enlève le sucre. Donc ça ne prouve rien à votre fidélité. Écoutez saint François de Sales. C'est un grand abus de plusieurs, et notamment des femmes, de croire que le service que nous faisons à Dieu sans goût, sans tendresse de cœur, sans sentiment, soit moins agréable à sa divine majesté. Car bien que nos œuvres faites avec tendreté de cœur nous soient plus agréables à nous, lorsqu'elles sont faites en sécheresse et stérilité, elles ont plus de valeur devant Dieu. Parce que notre volonté nous porte au service de Dieu comme par vive force, et par conséquent, il faut qu'elle soit plus vigoureuse et constante. Donc il y a plus de mérite lorsqu'il y a moins de consolation. Alors, il ne faut pas dire pour autant de demander au bon Dieu de vous retirer les consolations. Il serait capable de vous exaucer. Mais prenez les consolations quand il vous les donne, et quand il vous les enlève, ben, acceptez-les. Et ne remettez pas tout en question à ce moment-là. Donc retenez que la vraie piété consiste à vouloir plaire à Dieu, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les fluctuations de la partie inférieure de votre âme. Alors que faut-il maintenant pour acquérir la vraie piété? Maintenant que vous savez ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il faut pour acquérir la vraie piété? Notre nature humaine est ainsi faite qu'on a besoin de lire des choses spirituelles pour susciter en nous des pensées spirituelles. Donc la lecture de bons livres est un moyen précieux pour alimenter en nous de bonnes pensées. Et puis ensuite également l'oraison. Alors là je ne vais pas anticiper, c'est le Père Jean-Joseph demain qui vous parlera de l'oraison. L'oraison est aussi bien sûr un excellent moyen d'asseoir votre piété sur du solide. Et maintenant, il ne suffit pas de vous réserver un temps précis pour la prière. Si vous voulez que votre prière informe vraiment toute votre journée, donc ait une efficacité sur toute votre vie de tous les jours, si vous voulez devenir une âme intérieure, si vous voulez devenir Marie avec Marthe, si vous voulez, avec le cœur de Marie, eh bien, il vous faut pour cela, même si c'est plus facile à dire qu'à faire en fonction de l'état de vie qui est le vôtre, il vous faut du silence et du recueillement. Et il faut du silence et du recueillement non seulement pendant le temps de la prière, mais au cours de vos journées. Alors là, vous dites, bon, là, c'est l'abbé qui parle, il est dans son séminaire, c'est facile pour lui, mais je reconnais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais justement, je vais vous donner quelques renseignements, enfin, quelques réflexions plutôt, d'une mère de famille. Donc là, en ce moment-là, je me cacherai derrière elle, ce sera plus facile. Donc, pour avoir de la piété, il faut du silence. Et si le silence est nécessaire pour tous, je vais peut-être vous faire une nouvelle grande révélation. Il est spécialement nécessaire pour la femme parce que la femme est faite pour le silence. Alors, vous me voyez sourire en disant cela. Est-ce qu'il y croit en disant cela? Oui, oui, j'y crois. La femme est faite pour le silence. Alors pourquoi cette affirmation qui peut paraître osée, paradoxale ou alors complètement utopique, enfin, ne correspond pas du tout à la réalité? Quelle preuve vous donnez pour appuyer cette affirmation? Eh bien, si je dis que la femme est faite pour le silence, c'est parce que la femme est faite pour le mystère. Et qu'est-ce que j'entends ici par mystère? Je n'entends pas, bien sûr, quelque chose d'ésotérique, comme une secte, mais la connaissance de quelque chose de grave, de sérieux, d'important et comme d'infini, à savoir le don de la vie. Vous voyez, la femme est faite pour le don de la vie. Et le don de la vie, eh bien, est un mystère. La vie est un mystère. La femme est tout entière faite, programmée, oserais-je dire, pour le don de la vie. Toutes vos qualités physiques, psychologiques, spirituelles, sont en rapport avec cela. La femme est celle qui donne la vie. C'est aussi vrai que même dans le mot mariage, par exemple, vous avez mariage en latin, c'est matris munius, munium, c'est fonction de mère. Donc il y a le terme de maternité qui apparaît dans le mot même du mot mariage. Donc la vie est un mystère, ça on le sait, enfin on s'en rend compte en tout cas. Or, précisément, vous portez la vie en vous pendant 9 mois. Et si vous ne la portez pas, vous êtes apte à la porter. Mystérieusement, justement, vous portez cette vie. C'est-à-dire que vous ne voyez pas cette vie lorsque l'enfant n'est pas encore venu au monde. Mais vous connaissez cette vie, sans hésiter une seconde. Et vous vivez pendant 9 mois, 24 heures sur 24, toute intériorisée sur ce mystère. Et c'est donc à cause de ces 9 mois où vous êtes faite pour le silence, où vous êtes faite pour le mystère, que vous trouvez en vous des dons particuliers. Donc tous les dons qui sont présents en vous sont en rapport avec cette mission que le bon Dieu donne à la plupart des femmes, mais à d'autres ne les donne pas directement, mais malgré tout, vous êtes en puissance de le devenir. Et parce que vous êtes en puissance, vous avez les qualités correspondantes. Le père Calmel résumait un petit peu les qualités de la femme en parlant d'une intuition immédiate et globale. L'homme raisonne plus, mais quand il y a des décisions très rapides à prendre, heureusement que les femmes sont là, parce que sinon, il pourrait arriver des catastrophes parfois à la maison. Donc vous avez une intuition immédiate et globale, donc qui est en rapport, encore une fois, avec votre fonction de mère. La patience, même si, hélas, beaucoup de femmes se reposent. Donc qui est en rapport, encore une fois, avec votre fonction de mère. La patience, même si, hélas, beaucoup de femmes se reprochent leur impatience, mais une femme qui est fidèle à sa vocation, enfin qui, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, une femme qui développe en elle au maximum toutes ses qualités, donc est capable d'une grande patience. Et encore la douceur, bien sûr qu'il y a des femmes qui sont dures aussi, mais cette qualité, la douceur d'une femme qui est toute douceur avec ses enfants, c'est encore un rapport, c'est en rapport avec cette mission, disons, de la maternité, que vous êtes capable de douceur. Et ce privilège que vous avez d'alléger, de purifier, d'équilibrer, ce privilège-là est encore lié avec ce don de la vie. Donc on peut dire que toutes vos qualités féminines, si vous voulez, sont en rapport avec le don de la vie. Même si ensuite, ces qualités, vous pourrez les exprimer de diverses façons, suivant que vous soyez mère physiquement ou d'une autre manière. Alors maintenant que vous comprenez peut-être mieux le fondement de ce silence qui doit imprégner vos vies, je vous livre quelques réflexions donc, de cette femme âgée de 44 ans. 44 ans, c'est la moyenne d'âge donc des retraitantes là, cette année. Votre moyenne d'âge est de 44, en sachant que vous êtes âgé entre 17 et 91. Alors c'est vrai que celle de 91 fait augmenter un petit peu la moyenne, mais donc la moyenne est quand même de 44. Donc une femme de 44 ans qui est décédée 5 ans plus tard, donc elle est décédée en 1990, je l'ai bien connue, c'est une brestoise. Donc une mère de famille, elle avait 4 enfants. Voici quelques réflexions qu'elle livrait dans une réunion de jeunes ménages. Le silence n'est pas obligatoirement l'absence de bruit, mais le refus de tout ce qui éparpille ou occupe superficiellement l'être. Le refus de toute agitation stérile. Le refus de se répandre au dehors de soi de façon désordonnée et incontrôlée. Vous voyez, le silence n'est pas obligatoirement l'absence de bruit, mais le refus de tout ce qui éparpille ou occupe superficiellement l'être. Si vous pouviez arriver justement à la fin de cette retraite à mettre un peu plus d'ordre dans votre tête et dans votre vie pour éviter d'être trop éparpillé, comme malheureusement ça se passe souvent en raison de vos multiples obligations, vous rentrerez davantage dans la ligne de votre féminité. À l'ajouter, c'est certainement une ascèse. Il faut du temps pour l'acquérir, puisque la pente naturelle de l'être humain n'y porte pas non plus que la société ambiante. Et c'était alors en 1985, donc il y a déjà 18 ans qu'elle parlait comme cela. Cela suppose aussi toute une évolution de l'être entre la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Mais dès qu'on commence à posséder même seulement un peu cette ascèse, on est 100 fois récompensé par toutes les richesses qui en découlent. Pour rester sans cesse et toujours de plus en plus, plus profondément à l'écoute de ce qui peut susciter l'inspiration, elle était artiste, pouvoir et toujours de plus en plus descendre au fond de soi pour y rejoindre l'inspiration, c'est-à-dire sa vision intérieure, enfin, avoir ces deux regards simultanément parfois, à certaines heures privilégiées, toujours inattendues, que l'on ne peut jamais provoquer, on a quelquefois une sorte de grâce qui nous fait voir en un seul regard et le monde extérieur et la vision intérieure. Donc, je n'ai pas pu l'interroger ici sur ces quelques paroles qu'elle avait prononcées. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que, en vivant dans ce silence, nous avons la grâce de saisir donc l'inspiration. Ça peut être l'inspiration de l'artiste qui a besoin de silence pour son œuvre d'art, mais c'est aussi l'inspiration d'une âme qui est unie à Dieu et qui saisit plus profondément les choses de Dieu. Donc, puisqu'il est vrai que la Sainte Trinité habite dans notre âme, non pas 9 mois dans une vie ou 9 mois pour chaque grossesse, comme c'est le cas pour l'enfant, mais toute notre vie, nous devons essayer précisément de vivre dans ce mystère trinitaire qui est un autre mystère de la vie, non plus de la vie humaine, mais de la vie divine. Et c'est ce qui va vous aider à répondre davantage à ce que le bon Dieu attend de vous. Et la Sainte Vierge est le modèle, voyez, de toute femme. Ça, je pense que vous êtes bien d'accord. Or, la Sainte Vierge, si elle est un modèle, elle est un exemple. Or, la Sainte Vierge n'était pas une femme bavarde. Voyez. La Sainte Vierge, c'était pas une femme qui passait son temps au téléphone, c'est sûr. Il n'en avait pas facile. On a très peu de paroles de la Sainte Vierge dans la Sainte Écriture. Et on a bien peu de récits sur son compte. Mais on peut deviner aussi les silences qui étaient présents en elle. Bon, il y a des livres qui sont parus sur des révélations privées, qui sont d'ailleurs parfois plus ou moins douteuses, ou alors là, on rajoute toujours des tartines sur la Sainte Vierge, pour soi-disant mieux la connaître. Il y a toujours un danger. Comme dit M. l'abbé Puga, qui enseigne la Sainte Écriture à Écône, il faut savoir respecter les silences, justement, de Dieu dans la Sainte Écriture. Et s'il y a si peu de choses sur Notre-Dame, eh bien, c'est justement pour nous aider à mieux comprendre l'importance de ce silence. Mais on peut très bien deviner en Notre-Dame ces regards silencieux sur les êtres, sur les choses, sur les événements. Un regard qui cherche toujours à mieux connaître, un regard qui cherche toujours à mieux comprendre, un regard qui cherche toujours à mieux aimer. Donc comprenez bien, si vous arriviez au cours de cette retraite à le saisir, je serais très content, que le silence n'est pas un vide, mais une plénitude. Et pour parvenir à cette plénitude, alors, il faut apprendre à vivre petit à petit en compagnie des trois personnes divines. L'une des conditions de la piété véritable, c'est le silence. Et c'est pourquoi la piété est presque toujours superficielle dans les âmes dissipées. La piété est donc fille du silence, la piété est encore fille de l'amour. Ou on peut dire que la piété, c'est l'amour même. Quand une âme a perçu un petit peu, ici-bas, qui est Dieu, bien son cœur est rempli d'amour. Ça, c'est certain. Ça vient naturellement, je dirais. Et donc, la réelle piété, et finalement, c'est l'amour en action. L'amour d'une âme qui a compris qu'elle est aimée de Dieu. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu m'aime. Alors, il n'y a pas à s'en faire. Ce savoir aimé de Dieu, croiser ce regard de Dieu pour comprendre qui il est, ce qu'il attend de nous, voilà ce que vous devez désirer au cours de cette retraite. Et donc, si vous arrivez à cela, vous serez nécessairement apaisé, bien sûr. Vous serez rempli de Dieu. Et cette invasion de la grâce en vous, vous apaisant, vous aidera à voir plus clair dans votre vie. Donc, il ne faut pas croire que normalement, la vraie piété vous écarterait votre mari. Méfiez-vous de cela. Si votre piété vous éloigne de votre mari, eh bien, peut-être que c'est bien d'en parler à un prêtre, il faudra essayer de voir, mais à mon avis, ce n'est pas dans l'ordre des choses, voyez. Parce que le bon Dieu est un Dieu d'ordre, voyez. Il y a parfois, malheureusement, certaines femmes qui se réfugient dans la piété pour ne pas résoudre le problème de leur mari ou le problème de leurs enfants. Et donc, c'est facile en ce moment-là d'aller chercher des bouquins pour lire dans la piété. Le bon Dieu, il est bon, le bon Dieu est amour. Mais si votre devoir, c'est quand même avant tout votre mari et vos enfants. Donc normalement, la vraie piété ne va pas vous éloigner des vôtres. Elle va au contraire vous rapprocher d'eux. Oui, mais avec un mari comme j'ai, c'est facile à dire. Bon, on verra ça en privé, hein. Donc il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir après des accommodements, faut voir. Mais normalement, la vraie piété rapproche les âmes les unes des autres. Et puisque vous êtes mariés, eh bien, si vous êtes mariés, pour celles qui le sont, en ce moment-là, elles doivent vous rapprocher de votre mari et de vos enfants. Dieu est l'ordre. Et quand il entre dans une vie, c'est pour mettre de l'ordre. Et donc, l'ordre, c'est que chacun remplisse son devoir d'État. Et donc, vous êtes fille de Dieu, mais vous êtes aussi épouse et vous êtes mère, donc si vous êtes mariée avec des enfants. Donc, la piété va donner à la femme du monde d'être dévouée auprès des siens. La piété véritable engendre le dévouement. L'amour affectif conduit à l'amour effectif. Comment savoir si j'aime Dieu? Ben, est-ce que j'aime mon prochain? Si j'aime pas mon prochain, que je vois, je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas, même si j'ai l'impression que j'aime Dieu. C'est ce que dit saint Jean. Donc l'amour de Dieu doit engendrer l'amour du prochain. Ou alors, en tout cas, la compassion, si ce prochain vit loin de Dieu. Mais c'est beaucoup plus la compassion que la haine, ou que la rancune, ou que des sentiments négatifs. Alors, pour être capable d'arriver à cette piété dont je viens de vous parler, il y a quelques obstacles, et je vais terminer par là, quelques obstacles à vaincre. Quels sont les obstacles, donc, que l'on peut observer, qui nous empêchent d'être vraiment aussi pieux que le bon Dieu voudrait que l'on soit? Eh bien, la piété naît dans la lumière, grandit dans le recueillement, et s'achève par la conformité parfaite de notre volonté à celle de Dieu. Et on peut dire qu'à ces trois étapes, il va y avoir trois obstacles. L'ignorance va s'opposer à la lumière, la dissipation va s'opposer au recueillement, et la révolte ou les répugnances de notre volonté vont s'opposer à la parfaite conformité de notre âme à la volonté de Dieu. Donc tout d'abord, l'ignorance. L'ignorance est un obstacle à la piété, parce que, comme je vous disais, on a parfois une fausse notion de Dieu, ou une fausse notion de la vie spirituelle. Alors, un des grands remèdes à cette ignorance, c'est l'étude. Et c'est pour cela que cette retraite, déjà, est pour vous, toutes, un bon moyen d'arriver à trouver des repères, et à mieux connaître votre religion, mieux connaître ce que vous êtes, mieux connaître qui est Dieu, et mieux connaître le chemin à prendre pour aller jusqu'à lui. Maintenant, après la retraite, ça peut être bien. On n'est pas obligé de dévaliser la bibliothèque, enfin, de dévaliser ici la librairie.
ni pour vous, ni pour à cause des remarques après de votre mari, s'il me téléphone ensuite, je ne voudrais pas avoir trop d'ennuis. Mais essayez peut-être de voir quel livre pourrait vous convenir pour l'après-retraite. Donc, comblez l'ignorance par la connaissance, par l'étude de bons livres. Ensuite, deuxième obstacle à la piété après l'ignorance, la dissipation. Dans le monde d'aujourd'hui. Je vois bien moi-même, j'étais 8 ans prêtre à Lyon avant d'être ici, dans une grande ville donc. En plus au début on ne vivait pas, donc le prieuré n'était pas sur place, donc on avait les va-et-vient, donc dans les bouchons, tout ça, donc ça, j'ai connu ça aussi. Et je me suis rendu compte en effet que c'est pas si évident dans une vie, donc pour plusieurs d'entre vous qui habitent en région parisienne, d'avoir ce recueillement. Mais après, à chacun d'accommoder, hein, de trouver les moyens. Mais je pense qu'en tout cas, que c'est quand même important, soit le matin de bonne heure, soit le soir plus tard. Les deux, c'est impossible, parce que sinon, vous marcherez au radar et ça ne durera pas. Mais essayez de trouver un petit moment pour, en début de journée ou en fin de journée, pour bien vous recueillir. Et ensuite, essayez de vivre dans cette atmosphère petit à petit. Alors, qu'est-ce qui peut entraver le silence dans la vie d'une femme ? Alors là encore, je vais me cacher derrière cette femme donc de 44 ans dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle donnait des conseils, elle s'adressait à des femmes, elle était femme, donc entre elles, elle se comprenait. Alors qu'est-ce qui peut entraver le silence ? Donc tout d'abord, il y a le silence en nous-mêmes, ensuite il y a le silence dans nos rapports avec le prochain, et puis ensuite le silence dans nos rapports avec le monde. Tout d'abord, en nous-mêmes, qu'est-ce qui peut entraver ce silence ? Elle parlait des passions. Alors elle donnait quelques exemples, la liste n'est pas forcément exhaustive, et comme elle le dira elle-même, elle ne va pas condamner ces choses-là, mais à chacun de voir si on n'y met pas un petit peu trop, on n'y passe pas un peu trop de temps, ou un peu trop de passion justement. Les vêtements, les robes, le décor de la maison, la cuisine, les recettes, le jardinage, les collections, les journaux, la musique. Et elle ajoutait, je ne condamne pas, mais je dis qu'il faut faire attention à l'agitation que tout cela peut provoquer en soi. Là entre déjà l'attirance du monde matérialiste dans lequel nous sommes bien obligés de vivre. Donc je ne dis pas qu'il faille donc éviter ces choses, je dis qu'il faut apprendre à maîtriser, à les maîtriser. Donc après, à chacun de voir si dans ces domaines, il n'y aurait pas un petit lapin blanc, comme on dit dans la retraite de Saint-Ignace. Donc ça, c'est en nous-mêmes. Ensuite, dans nos rapports avec le prochain. Alors, elle parlait, alors je ne sais pas si elle avait raison ou pas, elle parlait des bavardages, donc j'ose le dire. Les paroles inutiles. Savoir deviner si ce que l'on va dire est utile au salut des âmes. Savoir deviner si ce que l'on va dire est utile au salut des âmes. Donc ensuite, ce qui empêche encore, donc ce qui entrave le silence, donc les bavardages, les paroles inutiles, et bien sûr, hélas, les paroles méchantes, les médisances, les calomnies. Souvent, on parle trop, et donc quand on parle beaucoup, plus on parle, plus il y a des risques que ça dérape sur le prochain et qu'on n'en dise pas que du bien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce qui peut entraver le silence ? Donc, on l'a vu en nous-mêmes, dans nos rapports avec le prochain, et puis ensuite dans nos rapports avec le monde. Alors ensuite, bon, je vous dis pas qu'il faille, là encore, prendre argent comptant tout ce qu'elle dit, ce sont des idées qu'elle donne. Et les idées qu'elle donne sont intéressantes parce qu'elles montrent, à partir des exemples concrets qu'elle prend, de quelle manière, donc je ne dis pas qu'il faille imiter servilement et prendre ça comme liste exhaustive de résolutions à la fin de retraite, je dis que c'est une espèce de mentalité qu'il faut essayer d'acquérir à partir de ce qu'elle dit là. Et si je prends son exemple, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a fait cette conférence, mais parce que je sais qu'elle en vivait, parce que c'était vraiment une sainte femme. Je pense que nous ne nous en sortirons pas si nous laissons ce monde entrer dans nos foyers sans y apporter la plus extrême prudence. C'est en 1985. Hein. La voix d'un speaker de radio ou la voix et l'image d'un speaker de télévision, c'est quoi qu'on veuille en dire, la voix d'un étranger chez nous, dans nos foyers. C'est une voix qui va tout à coup agiter nos pensées, attirer nos regards vers l'extérieur. Or, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Ainsi, télévision, radio, journaux, livres, images diverses, tout cela mérite d'être perçu et au besoin trié à la lumière de notre nature d'enfant de Dieu. Et ensuite, elle faisait une remarque concernant les femmes plus âgées. les plus sages et les plus profondes devraient être les vieilles, à force de silence, de plonger dans la méditation, dans la contemplation. Et c'est là, normalement, le plan de Dieu. Étant reines de nos foyers, nous devons donner du silence aux autres. En tant que reine du foyer, vous devez donner du silence aux autres. Donc non seulement vous devez rechercher le silence pour vous-même, parce que vous êtes faites pour le silence, mais vous devez donner du silence aux autres. Donner à tous le maximum et savoir tolérer patiemment la nature de chacun, qui est quelquefois contraire à la sienne propre et donc plus insupportable. Savoir créer du silence pour sa famille, le foyer, les enfants. Par exemple, faire attention à la musique. La musique de fond, bon, c'est elle qui parle, ce n'est pas bon. Pour leur apprendre à écouter la musique, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des moments où c'est cela que l'on fait et pas autre chose. Nous ne pourrons éduquer nos enfants à quelque chose de grand que si nous-mêmes, nous nous sommes d'abord éduqués. Et c'est à la fois parce que nous y serons passés, parce que nous connaissons intimement les tempéraments de nos petits, que nous saurons comment faire avec eux, avec l'un comme ceci, avec l'autre comme cela. La femme qui a compris l'importance du silence le recherche. Ça, c'est en tout cas noté en règle d'or. La femme qui a compris l'importance du silence le recherche. Si vous avez compris que le silence est important, vous devez le rechercher. Et si vous le recherchez, vous le trouverez, j'en suis sûr. On n'entend plus dire « je n'ai pas le temps ». Elle sait très bien où le trouver. Elle donne quelques exemples. Quand elle marche dans la rue, rien ne l'empêche de ne pas regarder les vitrines pour pouvoir entrer en elle. Après, on prend des exemples très féminins. Hein. Dans la salle du gynéco, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Pendant la sieste des enfants, rien ne l'empêche d'agir à ses tâches ménagères dans le silence. Il y a des femmes qui privilégient les heures de repassage, de raccommodage, parce qu'elles y sont silencieuses. Donc elles choisissent de prendre ces heures-là à tel moment plutôt qu'à tel autre pour pouvoir être davantage dans le silence. À propos des tâches ménagères, certaines mères de famille, certains jours, je pense que c'était son cas, j'en sais rien, parce que je ne sais pas si elle a eu beaucoup d'exemples sous les yeux, j'en sais rien. À propos des tâches ménagères, certaines mères de famille, certains jours, ont repris le balai plutôt que l'aspirateur parce que c'est sans bruit. Ou un ouvre-boîte, un couteau à découper ou un presse-citron vieillot plutôt que l'appareil électrique dernier cri parce que ça ne fait pas de bruit. Et elle disait ceci. Le but n'est pas d'avoir tout le confort que nous offre le monde matériel, ni de gagner du temps matériel. C'est de sauver nos âmes, et si possible aussi, celles qui nous entourent. À quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, nous dit notre Seigneur. Pour cela, le silence est indispensable. Alors je ne dis pas encore une fois qu'il faille tous reprendre le balai, hein, pas du tout. Mais je dis qu'une femme comme elle, qui avait compris l'importance du silence, cherchait à trouver des trucs pour avoir un petit peu plus de silence. Et ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on a de plus en plus de machines pour gagner du temps, et bien qu'on ait plus de machines pour gagner du temps, on est toujours stressé, on est toujours en train de courir. Donc normalement, puisqu'on a plus de machines, on devrait avoir plus de temps libre. Et on a plus de machines qui font plus de bruit, et on a moins de temps libre. Il y a un problème quelque part. Je vous laisse essayer de trouver la solution. Et à tous ces moments de silence, on peut au moins, de temps en temps, tourner un regard du cœur, de l'âme vers Dieu, la Sainte Vierge, les anges, le paradis tout entier. Donc vous voyez, elle ne demande pas des choses compliquées. Elle ne demande pas de faire une demi-heure de prière à genoux, les bras en croix ou les doigts sous les genoux. Elle dit que dans ces moments de silence, on peut, de temps en temps, tourner un regard du cœur, de l'âme vers Dieu, la Sainte Vierge, les saints. Et je suis sûr qu'elle le faisait, ça. Et donc, c'est cette atmosphère dans laquelle elle cherchait à vivre qui la rapprochait de Dieu. Et c'est tout à fait, donc, bon, alors encore une fois, là, on parle plutôt d'une mère de famille dont les enfants sont peut-être à l'école, qui, elle, est à la maison. Donc, après, si vous, vous travaillez à l'extérieur, donc vous n'êtes pas dans ce cas de figure, bon, après, c'est à chacun d'adapter. Hein. Je donne l'exemple de cette femme. On aurait fait cela chaque jour, ce serait déjà énorme. Et on ne dirait plus, à propos de la prière, c'est bien beau, mais je n'ai pas le temps. Et ça n'exige strictement aucune tension intérieure. Évitons donc la dissipation pour conserver, ne pas entraver notre vie intérieure. Et puis enfin, alors pour terminer, ah, maman vient de s'arrêter, je suis désolé. Pour terminer, les répugnances de notre volonté. Donc l'ignorance et la dissipation sont les obstacles que la piété rencontre dans notre esprit. Mais c'est dans notre cœur que s'achève la parfaite union de notre volonté à celle de Dieu. Et c'est là qu'il va falloir vaincre les plus redoutables obstacles, à savoir le mal et la douleur. Qui nous empêche d'être unis à Dieu, le péché et la douleur. Enfin, qui nous empêche, qui sont des obstacles, en tout cas, à la piété, même s'il faut savoir les surmonter, et on va le voir comment, le péché et la douleur. Donc Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter, vous avez eu hier une instruction là-dessus, donc là je vais être très bref pour terminer. Le péché chasse Dieu de l'âme, mais dès que l'âme prend conscience de sa misère et manifeste son repentir, le bon Dieu, bien on peut dire, il craque à tous les coups. Regardez Sainte Marie-Madeleine que l'on fête aujourd'hui, c'était la femme la plus souillée de Jérusalem. Les Juifs se disent, s'ils savaient qui est cette femme, ils ne la souffriraient pas à ses pieds. En réalité, notre Seigneur sait qui est cette femme et il la souffre à ses pieds. Il la souffre à ses pieds, mais après l'avoir purifiée par cette belle absolution. Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Notre Seigneur la relève à une dignité supérieure à celle qu'elle avait avant d'avoir péché. Et ça, il faut être le bon Dieu pour être capable de faire une chose pareille. Donc l'âme qui est la plus abaissée, le cœur qui est le plus souillé, le cœur qui est le plus avili, dès lors qu'il pleure sincèrement sa misère et qu'il se tourne vers Dieu, il lui est non seulement permis, mais il lui est ordonné d'aspirer à l'intimité divine. Donc ne me dites pas, oui, mais si vous connaissiez ma vie passée, vous verriez que je ne suis pas digne de cette vie-là. Ça, c'est bon pour celles qui ont été fidèles toute leur vie. Non, Sainte Marie-Madeleine est un bel exemple d'une très grande contemplative qui avait mal commencé, mais qui a très bien fini. Donc on peut dire que lorsque Dieu voit une âme à travers une larme, il s'attendrit sur elle et lui rend sa beauté et son amour. Donc ce qui maintient l'âme loin de Dieu, ce n'est pas le péché. Ce qui maintient l'âme loin de Dieu, c'est l'attachement au péché. Donc il faut couper les attaches. Et même au péché véniel, ça pourrait être l'objet d'une instruction. Les créatures pour mériter d'être attachées à Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, nous a dit notre Seigneur. Quand Jésus-Christ vient dans une âme, il y vient avec sa croix. Et c'est vrai. Quand notre Seigneur vient dans une âme, il y vient avec sa croix. Notre Seigneur nous a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc dans toute vie, il y a des déceptions et des douleurs. Quelle que soit la vie qui soit la vôtre, dans toute vie, il y a des déceptions et des douleurs. Et le problème, c'est qu'on a du mal à les accepter. C'est difficile d'accepter les épreuves. C'est difficile, une fois qu'on a donné son cœur, quand on voit qu'on s'est fait avoir, c'est difficile de pardonner. Et si on se demande pourquoi y a-t-il tant de vies qui végètent, ce n'est pas même en raison de nos souffrances et de nos douleurs, mais de la difficulté que l'on a à les accepter. Peut-être qu'on ne se révolte pas, mais on n'accepte pas. Il y a peut-être des choses encore dans votre vie que vous n'avez pas acceptées, des choses que vous subissez de mauvaise grâce, avec le murmure sur vos lèvres et l'amertume dans votre cœur. Et c'est là ce qui nous empêche d'être tout à Dieu. Voyez. La première parole de notre Seigneur sur la croix, c'est « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors c'est sûr, pour être capable de réagir comme ça, il faut que ce soit Dieu qui vienne dans notre âme. Tout seul, on n'est pas capable. Mais Dieu le veut. Donc c'est très important dans la vie, voyez, de ne pas se poser en victime, mais plutôt rendre nos souffrances méritoires, quelles qu'elles soient, quelle que soit la cause. Voir à travers ceux qui nous font souffrir, eh bien, dépasser leur malice pour voir la main aimante de Dieu qui burine notre âme pour la façonner à son image. Et aussi ne pas se comparer aux autres. Ouais, mais pourquoi moi, j'ai pas de chance dans ma vie, alors que les autres. En plus, on ne connaît pas forcément les détails des vies des autres. Donc chacun a ses épreuves. Et finalement, on doit se dire que la grande épreuve de notre foi, c'est la souffrance. Et si vous succombez alors à cette grande épreuve, c'est l'enfer. Et si vous triomphez, c'est l'horreur du ciel. Il faut se dire que peut-être, et sans doute même, que beaucoup d'entre vous ne sont séparés de la ferveur, peut-être même de la sainteté, que par un acte de résignation. Et si je le dis, c'est parce que c'est vrai, j'en suis sûr. Et parce que je sais que, sans connaître chacune de vos vies dans le détail, je sais que des femmes ont souffert beaucoup, souffrent beaucoup dans leur vie, ont dû avaler beaucoup de couleuvres. Et donc, il y a comme souvent un sentiment négatif, un sentiment d'amertume qui reste. Et il faudrait que tout ça sorte pour pouvoir repartir vraiment avec une âme jeune et confiante. Donc il faut essayer de prononcer son fiat 3 fois par jour, comme l'Église d'ailleurs nous le propose, qu'il me soit fait selon votre parole. Conclusion, j'étais un peu long, je suis désolé, maman s'est arrêtée, donc je ne voyais pas l'heure passer. Vous avez besoin de Dieu. Lui seul répond aux cris de votre âme, aux anxiétés de votre conscience, aux détresses particulières que vous connaissez. Mais vous ne pouvez le posséder ni contracter avec lui une alliance si nécessaire qu'en vous établissant dans la lumière, dans la résignation et la paix. Puisse cette retraite vous aider à réaliser ces conditions. Nous rendons